Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 février, évidemment c'est la dernière émission de la semaine et au menu aujourd'hui on va vous proposer de prendre vos bottes et de prendre un grand bol d'air en allant dans le salon à la ferme. Et oui, ce n'est pas le salon de l'agriculture en Mayenne, il n'a pas été délocalisé, mais pourtant vous pourrez justement aller visiter les fermes près de chez vous et rencontrer les agriculteurs. On va également entendre le portrait de Laura Salin-Eyike, une athlète mayennaise très prometteuse et notamment pour les JO de 2024. On va parler plus largement aussi avec elle du sport féminin et de sa médiatisation. Et puis comme chaque vendredi, vous retrouverez la chronique sport avec Steven qui va nous parler aussi, tiens c'est un petit peu en lien avec notre interview, la médiatisation et la place de la femme, en tout cas plus généralement d'ailleurs dans le tennis, la place de la femme dans le tennis effectivement. Et puis on va finir avec ce cinquième et dernier épisode autour de ce programme Quartier en scène avec les ados au Théâtre de Laval. Mais tout de suite on va faire un point sur l'actualité avec ce rassemblement en faveur de la paix organisé demain midi à Laval, à l'appel de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne et de la Maison de l'Europe à Laval. Un rassemblement en faveur de la paix en Ukraine est organisé demain samedi à 12h30 devant la mairie de Laval. Les modalités en tout cas de ce rassemblement sont précisées dans l'après-midi. Une agression contre un pays européen sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Réaction d'Europe Écologie Les Verts en Mayenne à l'attaque russe en Ukraine. Le parti écologiste appelle à des livraisons d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre et à des sanctions exceptionnelles contre Poutine et ses complices. Un incendie détruit une maison à Ambrières-les-Vallées. Le feu s'est déclaré dans une maison en ossature bois de la rue des Prunelles vers 14h hier. À l'arrivée des pompiers, les deux occupants s'étaient réfugiés chez leurs voisins. Il n'y a pas eu de blessés, mais la maison est totalement détruite et les deux occupants vont être relogés par la mairie. Attention, la semaine prochaine, il ne restera plus que deux centres de vaccination en Mayenne, ceux de Laval et de Château-Gontier. Une décision prise face à la forte baisse du nombre de rendez-vous de vaccination pris. À Laval, le centre de vaccination déménage. Il parle de la salle polyvalente pour revenir vers le centre hospitalier de Laval, dans les locaux de l'ancienne maison médicale de garde. Les rendez-vous sont à prendre le mercredi seulement sur doctolib.fr. Et puis le vaccin Novavax, lui, sera disponible à Château-Gontier pour les personnes vaccinées qui ne voudraient pas avoir un vaccin à ARN messager. Et puis du côté du sport, et plus précisément du foot, c'est un derby ce week-end puisque les Tangos se déplacent au Mans dimanche à 15h15 pour essayer peut-être de renouer avec la première place. Première place en tout cas tout seul puisqu'ils sont à la première place ex aequo du classement de national avec Concarneau. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, vous le savez sans doute, le salon de l'agriculture commence demain. Et pour ceux qui ne pourront pas y aller, eh bien c'est le salon qui vient à vous. En tout cas, c'est l'idée de la Confédération Paysanne en Mayenne, avec 5 fermes qui ouvrent leurs portes demain, pour certaines toute la journée, d'autres que l'après-midi. Une idée reprise de l'an passé, alors que le salon de l'agriculture n'avait pas eu lieu. Alors, 8 fermes avaient ouvert leurs portes pour accueillir plus d'un millier de visiteurs au total. Un moyen de parler du métier d'agriculteur et de l'installation. Explication avec Stéphane Durand, porte-parole de la Confédération Paysanne en Mayenne.
Trois d'entre elles vont être ouvertes au grand public et aux élus, donc avec un temps de débat sur l'après-midi. Et ce sera des fermes avec plusieurs productions différentes, une à Cran en cochon, poulette et vaches laitières, une autre exploitation à Saint-James-le-Robert qui seront en vaches allaitantes et maraîchage. Et puis la troisième ferme qui ouvre au public également, c'est à Saint-Fravaux-de-Prières en vaches laitières, transformation en vente directe. Des gens, l'an dernier, ont apprécié le salon et d'avoir ouvert leur ferme. Là, le but, c'était de faire voir d'autres fermes et mettre l'accent cette année sur l'installation. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris 5 fermes où des jeunes se sont installés dernièrement ou sont en projet d'installation pour vraiment échanger sur comment l'ADERM, la SIAP, qui sont nos partenaires sur ce salon, comment on peut encore installer sur des fermes peut-être d'une taille un peu moins importante que ce qu'on voit trop aujourd'hui. Et donc justement, c'est là-dessus qu'il va être intéressant d'échanger. Beaucoup de personnes qui ne viennent pas de l'agriculture et qui sont intéressées, qui ont fait des formations scolaires des fois très poussées, et qui ont envie de revenir aux sources de la vie, de savoir de bien se nourrir avec et avoir une produire de une alimentation de qualité, de respecter l'environnement, le citoyen et le climat. On va avec ça, évidemment. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une population de citoyens qui s'intéressent à de pouvoir s'installer sur une ferme. Mais peut-être pas avec des fermes, avec des structures trop importantes, parce que on voit bien aujourd'hui, il y a des gens qui font des burn-out, comme on peut avoir aussi dans la société civile ou urbaine, mais parce que des structures trop importantes, surdimensionnées, la main-d'œuvre vient à manquer et le stress qui s'accumule là-dessus et les problèmes financiers. Peut-être trop de conseils qui vont dans le sens de pouvoir toujours améliorer son revenu en ayant un volume de lait ou des surfaces supplémentaires. Ce qui a été des fois le cas pour conforter, et on peut toujours avoir des exploitations qui ont besoin de se conforter, mais là il y a bien des fermes, c'est pas pour se conforter, c'est vraiment dans la croire qu'on va toujours avoir un revenu supplémentaire, mais les charges sont souvent trop importantes, que ce soit les charges d'achat de matières premières ou d'investissement et la charge travail.
Vous pourrez retrouver tous les horaires et adresses des fermes ouvertes demain en Mayenne sur le site de la Confédération Paysanne du département. Je vous propose d'écouter le portrait de Laura Salin-Eyiquet juste après cette pause musicale assurée par FFF avec Monkey. C'était FFF Monkey dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et on va passer donc à cette interview assurée par Andy, puisque la semaine dernière s'est déroulée la semaine de la médiatisation du sport féminin.
Et oui, et dans ce cadre, on a voulu s'intéresser à une personne importante dans le sport féminin en Mayenne, mais aussi au niveau national. Il s'agit de Laura Salin-Eyiquet, qui a d'ailleurs dernièrement remporté le championnat de France 200 en hauteur. Elle évoque ses débuts, son palmarès à haut niveau, ses prochaines compétitions, mais aussi bien sûr le sport féminin et sa médiatisation.
Je m'appelle Laura Salin-Eyiquet, j'ai 26 ans. Je suis athlète de haut niveau en saut en hauteur et je suis licenciée à l'enceinte athlétique Nord-Mayenne depuis maintenant 20 ans, parce que j'ai pris ma première licence à 6 ans. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis à Rennes, et avant ça je me suis entraînée pendant 8 ans en pôle esport à Nantes, et du coup ça se passait plus trop bien, donc je suis partie et je suis venue m'entraîner ici à Rennes. Il y a des structures, donc les pôles esport, les pôles France, etc. Ça permet de rester licencié dans ton club de base, mais de t'entraîner ailleurs parce que tu es sur une structure de ligue ou de fédération. Et donc c'est pour ça que moi je suis pu m'entraîner à Nantes pendant 8 ans tout en restant licencié à Mayenne. Et là maintenant que je suis à Rennes, moi je suis dans un groupe qui me permet de rester licencié dans mon club parce que ils s'en fichent que je sois licencié, peu importe où je sois licencié en fait, l'important c'est juste que je puisse m'entraîner et que voilà, ils font pas de différence. En gros, je m'entraîne avec le Stade Rennais et ils exigent pas que je signe dans leur club pour m'entraîner à Rennes. Et la salle, et on s'entraîne principalement dans la salle Robert Poirier, et en gros ils ont fait une convention avec mon club de Mayenne pour que je puisse m'entraîner dû à mon niveau, que je puisse m'entraîner gratuitement sur la structure.
À côté, vous faites des études ?
J'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme de coach sportive l'an dernier. Et du coup, je travaille en tant qu'assistante d'éducation dans un lycée à mi-temps parce que, pour pouvoir me nourrir, etc. Parce que l'athlée, c'est bien, mais ça ne paye pas trop, donc voilà.
Du coup, vous faites de l'athlétisme, vous êtes spécialisée en saut en hauteur. Comment ça se passe pour se spécialiser quand on commence l'athlétisme ?
Alors, quand on est petit, on commence par un peu de tout. C'est plutôt des jeux athlétiques, etc. Donc, et c'est par équipe, donc c'est plutôt marrant. Et à force, quand on grandit, on commence à tester les vraies disciplines de l'athlète, un peu de tout. Puis on voit forcément ce qu'on préfère, là où on est le meilleur. Et puis la spécialisation arrive vraiment quand on passe cadet. Et du coup, moi, j'ai vu que, en fait, j'étais plus à l'aise en saut en hauteur. J'aimais bien faire de la longueur et un peu courir, mais bon, voilà, c'est vraiment la hauteur où j'ai commencé à exceller. Donc, je me suis tournée vers ça directement, quoi.
Et donc, c'est vers quel âge, cadette, c'est 15 ans, c'est ça, non ?
Ouais, c'est ça, 15 ans, 16 ans.
Ok. Et du coup, il y a des façons différentes de s'entraîner par rapport à chaque discipline, j'imagine ?
Oui, effectivement, en vrai, l'athlétisme, c'est un sport qui regroupe plein de disciplines, mais totalement différentes. Et quand on est plus petit, on fait vraiment des trucs un peu communs, etc. Et après, en fait, quand on grandit, on se rend compte que la préparation d'un athlète de, je ne sais pas, 400 mètres et un sauteur à hauteur n'a rien à voir. Enfin, même si il y a quand même des bases, la prépa physique en soi reste quand même la même. C'est après, quand on rentre dans la spécificité de la discipline, ça diffère. Donc, par exemple, un coureur de 400 va faire des entraînements très difficiles où il peut vomir à l'entraînement, etc. Alors que moi, ça m'arrivera quasiment jamais, je pense. On s'entraîne 6 jours sur 7 minimum. Et après, ça peut arriver qu'on fasse des entraînements 2 fois par jour. Et ça dépend aussi des disciplines parce que, par exemple, un coureur de demi-fond, de fond, va pouvoir s'entraîner 12 fois dans la semaine parce qu'il va y inclure des footings, etc. Donc, ça va compter comme des entraînements. Alors que nous, on va plus s'entraîner 8 fois, mais pas nécessairement plus, quoi.
Du coup, la semaine dernière, c'était la semaine de la médiatisation du sport féminin. Est-ce que vous sentez qu'actuellement, le sport féminin est bien représenté dans les médias ?
Je pense que ça a évolué, mais c'est encore très, très... Enfin, c'est trop peu encore pour l'instant, parce que déjà les gens font beaucoup de différence entre le sport féminin et le sport masculin, comme quoi on entend souvent que de toute façon le sport féminin c'est moins, ça va moins vite, c'est moins impressionnant, enfin c'est plus facile, en gros que tout le monde peut le faire quasiment, on a l'impression de ça, alors qu'en vrai pas du tout. Mais je pense que ouais, qu'on est trop négligé, on est mis de côté, alors qu'en soi je pense que on sait qu'il y a quand même une différence physique entre les hommes et les femmes et que voilà, mais c'est comme ça. Je pense que chaque que ce soit un homme ou une femme, il y a d'autres choses belles et différentes à voir dans le sport, mais c'est tout aussi impressionnant, tout aussi admirable, et on travaille tout autant, que peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, on travaille tout autant, on se donne tout autant, et voilà. Donc je pense qu'il faudrait considéré un peu plus.
Du coup, est-ce que, dans votre discipline, c'est généralement individuel ? Du coup, comment ça se passe quand vous entraînez ? Vous êtes tout seul, plusieurs ?
En fait, je m'entraîne dans un groupe. On est plusieurs. On est à peu près un petit peu moins de 10 ou 10, quoi. Et on est plusieurs. On est des gars et des filles en saut en hauteur. Après, sinon, il y a des coureurs de 400, enfin, deux coureurs de 400. Mais sinon, on est principalement un groupe de sauteurs en hauteur. Mais on s'entraîne tous les jours, on est plusieurs à l'entraînement. Après, quand il s'agit des séances techniques de saut en hauteur vraiment comme on dit. C'est-à-dire qu'il y en a une dans la semaine. Là, je suis toute seule parce que du coup, même si les autres filles ou les autres gars avec qui je m'entraîne font du saut en hauteur, on n'a pas du tout les mêmes problématiques à régler. Donc, mon coach préfère qu'on soit chacun tout seul pour qu'on soit vraiment focus sur chacun de nos problèmes, quoi.
Et donc, dans votre sport, personnellement, vous pensez qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ?
Bah, je trouve qu'en athlée, c'est moins flagrant que dans d'autres sports parce que bah, l'athlée, déjà, c'est un sport mixte. Et du coup, s'il y a une compétition qui est diffusée à la télé, tu vas avoir autant de discipline féminine que de discipline masculine. Donc en vrai, je trouve que ça se voit beaucoup moins en athlée. Après, c'est plutôt les commentaires qui sont faits par rapport aux hommes et sur les femmes qui sont différents. Par exemple, un homme, on va tout de suite dire « Waouh, il a fait une performance extraordinaire », etc. Alors qu'une femme, on va dire « Oui, regardez, ses ongles, ils sont super beaux sur la ligne de départ, elle est hyper bien coiffée, un maquillage au top, et nanana. » Enfin, alors que non, en fait, moi aussi j'ai fait une performance, parler de ma performance, on s'en fiche que mes ongles ou ma coiffure soient, voilà, donc c'est plutôt ça qui, voilà, mais sinon après, je pense qu'on montre tout autant de disciplines d'hommes que de femmes dans l'athlète.
Ok, et dans le sport en général, vous trouvez que c'est différent du coup?
Ouais, je pense que bah, par exemple, les sports co, je trouve qu'on voit beaucoup la différence, par exemple, même quand, je sais pas moi, l'équipe de France de hand féminine va faire un super truc, ou de basket, elles vont pas faire la une de l'équipe, alors que ça se trouve, il va y avoir, Laval, le club de foot de Laval, ils sont en Ligue 2, même pas, je sais même pas.
En national, ils sont en national.
En national, voilà, on va les mettre eux, alors qu'en fait, il y a l'équipe de France de basket féminine qui a fait un super exploit, je sais pas, enfin, ça, c'est des trucs qu'on voit beaucoup. Et je trouve que les sports co, ça se voit beaucoup la différence, on voit vraiment, même le foot, c'est l'exemple parfait, même si je sais que le foot masculin ou le foot féminin, ça engage pas du tout la même audience, les mêmes, enfin, c'est du business en vrai, donc bon voilà, mais je trouve que ça se voit plus, alors que dans les sports individuels, ça se voit moins. Je pense qu'au tennis, ça se voit moins aussi.
Et du coup, on va se recentrer un peu sur vous. Est-ce que vous pouvez nous dire votre palmarès aujourd'hui?
Ouais, alors du coup, j'ai fait, bah, depuis que je suis, en gros, depuis cadette, j'ai fait plusieurs titres de championne de France. Dans mes années jeunes. Ensuite, tous les ans, je suis montée sur un podium national. Donc, ça a été plutôt cool. J'ai été en équipe de France deux fois. J'ai fait une sélection senior. C'était pour le Décanation à Angers en 2014. Et sinon, j'ai fait les championnats d'Europe moins de 23 ans en 2017. Mon record, il est à 1m85. Donc, j'ai le record du département, le record de ligue. Et voilà, en gros, voilà, à peu près.
Et donc, vous avez été championne de France il y a une ou deux semaines, c'est ça?
Oui, j'ai été championne nationale il y a deux semaines maintenant.
Et du coup, quelles sont les prochaines étapes après avoir gagné ce titre?
Et bah là, du coup, ce week-end, on part au championnat de France élite. Parce qu'en gros, le championnat de France que j'ai gagné il y a deux semaines, c'est les championnats de France nationaux. Donc en gros, il n'y avait pas tous les meilleurs Français. C'est le championnat national N2, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc il manquait quelques filles. Et là, du coup, ce week-end, c'est les championnats France élite. Donc là, c'est les vraiment 12 meilleures Françaises de son hauteur qui seront là.
Du coup, vous visez quelle place?
Et bah, ouais. Je ne sais pas. là, franchement, en gros, dans les 12, moi, je suis au milieu. Je suis 6e. Donc voilà, je suis milieu de tableau. Après, il y a vraiment la première place qui est vraiment inatteignable parce qu'il y a vraiment une différence entre... Bah, c'est une des filles à qui je m'entraîne qui est première au bilan français et qui est vraiment au-dessus du lot. Donc pour aller la chercher, va falloir vraiment être vraiment très très forte et je pense que vraiment personne là, à l'heure actuelle, est en capacité d'aller la chercher. Mais après, c'est serré quand même entre la deuxième et... Ouais. 9e place, c'est assez serré, donc ça se joue à 4 cm, quoi, donc en vrai, bon.
Vous pouvez peut-être viser un podium, du coup.
Ouais, franchement, c'est pas fermé, après, il va falloir que je sois là et que je fasse les choses bien, mais en vrai, c'est pas fermé.
Et du coup, après les championnats de France élite, si vous faites une bonne compétition, est-ce que ça emmène vers des championnats d'Europe, les JO 2024, pourquoi pas?
Non, là, pour l'instant, il y a les championnats du monde... bah, en mars. Mais après, franchement, les championnats du monde en hiver, c'est très très dur d'y aller. Donc voilà, enfin, bref, de toute façon, j'en suis très très loin. Donc pour l'instant, non, pas du tout. En gros, après les championnats de France élite de ce week-end, la saison, bah, on coupe et on se prépare pour l'été. Mais sinon, cet été, il y a plusieurs sélections en équipe de France. Il y a les Jeux de la Francophonie, les Jeux méditerranéens. Même si ces deux championnats-là, on ne sait pas si... Il n'y a pas toutes les disciplines, donc il peut y avoir par exemple le saut en hauteur masculin, mais pas féminin. Donc bon, enfin, on saura un peu plus cet été. Et il y a aussi les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc voilà, j'espère cet été faire une bonne saison et au moins décrocher une de ces sélections en équipe de France là. Et après, bah, pour les JO en 2024, pour l'instant, c'est trop tôt pour pouvoir se qualifier ou quoi que ce soit, quoi. C'est souvent l'année, bah, c'est l'année 2024, quoi. Mais 2023, si t'as fait vraiment une performance extraordinaire.
Et du coup, en général, quand vous partez en sélection pour l'équipe de France, vous êtes à combien?
Bah, moi, quand je suis allée quand j'ai fait les championnats d'Europe, on était que deux, moi et un garçon. Donc, voilà. Mais après, quand c'est les championnats d'Europe, il y a trois places par discipline, il y a trois places en son hauteur femme et trois places en son hauteur homme. Mais après, c'est une question de faire la performance requise. Il y a des minima qui sont fixés et du coup, si personne les a fait, personne n'ira. Et si trois personnes les ont fait, trois personnes iront, quoi.
Et c'est quoi du coup le minima?
Alors maintenant, c'est un peu différent parce qu'il y a un minima qui est mis, mais il y a aussi le bilan européen qui est pris en compte. Donc là, en gros, par exemple, pour cet été, les championnats d'Europe, les minima, ils sont fixés à 1m95, je crois, mais ça passera à moins parce que si c'était 1m95, bah, il n'y aurait pas beaucoup de filles qui iraient au championnat d'Europe. Donc, c'est le top 24 européen. Donc, je pense que ça correspond à peu près à 1m90.
Et on lui souhaite bien sûr de passer cette fameuse barre, mais aussi une bonne chance pour les championnats de France élite qui ont lieu ce week-end dans le sud-est de la France, à Miramas.
Merci Andy pour cette interview et on va rester effectivement dans ce sport féminin, mais on va parler plutôt tennis d'ici quelques instants, juste après Voyou avec Papillon.
Et bientôt les fleurs se referment. papillon ne peut plus se poser. Fatigué d'envoyer ses ailes au vent fatigué de l'été. Papillon fait donc une escale entre mes bras impatientés. Car de toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse quand tu te déposes sur des millions de roses. Papillon, mon cœur, souvent seul en dit de toi.
D'écouter Papillon de Voyou dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va rester dans cette même thématique hein, autour du sport féminin. D'ailleurs, on précise sport féminin alors qu'on ne dit pas sport masculin, ça aussi c'est un autre débat. Mais on va parler en tout cas avec toi, Steven. Déjà bonjour.
Bonjour Marie.
Et on va parler effectivement plus précisément de la place de la femme dans le tennis aujourd'hui.
Alors, effectivement, la place de la femme dans le tennis. Donc, on va passer tout d'abord par un film qui est récemment sorti, justement, en décembre 2021, qui s'appelle « La méthode Williams ». Un film qui fait focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams. Et oui, le nom Williams, père des joueuses mondiales de Vénus et de Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes, le plan de communication et de médiatisation, ainsi que les différents combats qu'il souhaite faire évoluer pour ses filles. Et oui, les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans doute la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournoi de Grand Chelem. Et sa sœur Vénus a remporté 7 titres en Grand Chelem. Alors que nous pouvons dire de la place de la femme, de l'égalité et de la médiatisation de la femme dans le tennis ? Aujourd'hui, si combattre les inégalités hommes-femmes dans le sport est devenu une priorité pour tous les acteurs du milieu, une discipline pourrait faire office d'exemple, le tennis. Dans le monde professionnel de la petite balle jaune, les femmes ont depuis longtemps acquis un statut similaire à leurs homologues masculins. Salaire, médiatisation, star system, les joueuses n'ont presque rien à envier aux hommes. Presque.
Alors presque justement, on va préciser, puisqu'en tout cas je l'apprends en même temps que vous, des prize money égaux depuis 1973.
Alors les prize money, on appelle ça un peu en anglais, c'est ce que justement le salaire, le revenu que peuvent recevoir les joueuses. Alors le tennis est le premier sport à avoir instauré l'égalité salariale en 1973 à l'US Open, le tournoi américain, soit 3 ans seulement après la pratique du football qui est autorisée pour les femmes, c'est-à-dire peu l'avancée du monde de la petite balle jaune qui a été justement précurseur là-dessus. Cette année-là, la championne australienne Margaret Court, que tout le monde doit connaître, a reçu le même chèque de 25 millions de dollars dans le tournoi justement masculin, avec en même temps le même chèque que John Newcombe. Il faudra ensuite attendre le début du XXIe siècle pour que l'Open d'Australie en 2000, Roland-Garros et Wimbledon en 2007 suivent l'exemple justement de ce tournoi américain. En plus des 4 tournois majeurs, certains autres grands tournois pratiquent l'égalité des prize money, notamment Miami, Indian Wells et Madrid. À titre de comparaison, en football, l'Allemagne a empoché 35 millions de dollars pour son titre de championne du monde en 2014, tandis que les États-Unis, vainqueurs du trophée féminin l'année suivante, ont dû se contenter de seulement 2 millions de dollars, soit 33 millions de moins.
Oui, on ne va même pas faire la division parce que ce serait un petit peu triste. Et en tout cas, il y a aussi cette égalité plus ou moins au tennis. En tout cas, elle se retrouve aussi dans la diffusion puisque les chaînes se battent pour diffuser la WTA.
Alors effectivement, en France, depuis 2017, les droits de retransmission sont partagés entre beIN Sport, Eurosport et France Télévisions, co-diffuseurs de la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis chez les garçons, et des internationaux de France, qui équivaut à Roland-Garros, avec un circuit comprenant 67 tournois étalés sur 43 semaines et 300 jours par an. Il est possible de regarder quasiment quotidiennement du tennis féminin à la télévision française. Sans compter ce qui existe sur Internet, effectivement, avec les liens streaming. Si le football féminin commence à faire son apparition sur le petit écran avec l'attribution des droits de l'équipe de France par la chaîne M6, on reste bien loin de l'omniprésence du tennis, sans parler des joueuses de rugby et de volley qui attendent toujours une diffusion du top 8 et de la nationale 1, ne serait-ce que sur les chaînes cryptées. Tout serait donc parfait s'il y avait un petit problème d'éthique à la clé. Du fait que cette avancée sociale, les femmes se trouvent désormais beaucoup mieux rémunérées que les hommes, à temps égal passé sur les cours. Et cela pour une raison simple. Comme dans les autres tournois du circuit, elles continuent en grand chelem à jouer leur match en deux manches gagnantes, autrement dit en 3-7 maximum, alors que les hommes disputent des rencontres en trois manches gagnantes, autrement dit en 5-7 maximum. Or, cela fait une énorme différence. Le temps passé par les hommes sur le court dépasse celui des femmes de 1h à 1h30 dans la plupart des cas. La logique élémentaire et la morale sociale voudraient donc que l'on s'aligne les femmes sur les hommes en les faisant jouer en trois manches gagnantes, mais des voix s'élèvent ici et là pour souligner le surcroît de dépenses physiques pour des femmes réputées moins résistantes. Oui, la rémunération égale, non aux efforts égaux. Or, cet argument de moins de résistance n'a pas la moindre valeur. Les femmes sont tout aussi résistantes que les hommes et les forces sportives, comme le démontrent les marathoniennes, les triathlètes, les navigatrices en solitaire ou les alpinistes de l'extrême. Si les femmes sont parvenues, non sans obstacle, à s'inscrire dans le monde du sport, le combat continue pour rendre leur performance aussi prestigieuse que celle des hommes, mais aussi pour bénéficier du respect qu'elles méritent.
Merci beaucoup Steven pour cette chronique. On l'a compris, autour de la place des femmes dans le tennis, mais peut-être plus globalement hein, dans le sport. Une chronique donc que vous pourrez là aussi réécouter sur l'autreradio.fr. Merci Steven, on te retrouve la semaine prochaine pour
merci
une nouvelle
Marie,
chronique
et
sport.
Petit clin d'œil aux sportifs ukrainiens qui ont soutien dans cette difficulté mondiale.
Effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment et l'envahissement russe en Ukraine. On va être plus léger, hein, on va revenir ici, en Mayenne, et notamment au Théâtre de Laval, avec le cinquième et dernier épisode de notre feuilleton autour du programme Quartier en scène, donc proposé pour les ados de 12 à 16 ans. Un programme sur une saison avec une rencontre par mois pour découvrir le théâtre autrement. Et le temps fort a eu lieu la semaine dernière avec un stage avec les artistes de la compagnie La Belle Brute. Alors que Quartier en scène se poursuit jusqu'au mois de juin, un premier bilan à mi-parcours avec Emmanuelle Breton, médiatrice au Théâtre de Laval.
On s'aperçoit quand même que le groupe constitué jusqu'à maintenant ne suit pas forcément ce temps fort parce que c'est quand même un sacré investissement. Faut pas qu'on oublie qu'on est sur le temps des vacances. Et puis voilà, ces jeunes qui ont entre 12 et 15 ans, on va dire, bah, les vacances, c'est un moment aussi où on voit les copains, où on part aussi à droite, à gauche. Donc c'est vrai que les jeunes qui sont là sont investis et je pense apprécient. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un investissement. Et du coup, il y a des jeunes qui étaient là avant, qui ont un petit peu lâché sur ce temps fort. Ça se veut ludique, mais on apprend. Donc il faut être concentré, il faut écouter les autres. Et c'est vrai que voilà, il y a des jeunes qui n'ont pas forcément envie de ce temps-là sur leur temps de vacances, ce qui est complètement compréhensible. Donc, on n'a pas tout le groupe constitué, mais c'est un petit peu le but de l'aventure. Alors, on a un rendez-vous par mois et des spectacles. Donc, sur les rendez-vous, on a fait une espèce de grande chasse au trésor dans les coulisses du théâtre. On a fait ce qui était très intéressant, on a imaginé un bord de scène. Alors, un bord de scène, c'est un peu le jargon du théâtre, c'est-à-dire que ce sont les artistes qui, suite à leur représentation, rencontrent le public. Là, on a fait un bord de scène comme si le spectacle avait déjà eu lieu, mais personne ne l'avait vu. Donc en fait, les jeunes se sont mis dans la peau des artistes, c'est-à-dire il y en avait un qui faisait le scénographe, l'autre le metteur en scène, l'autre celui qui s'occupait des costumes, un qui s'occupait de la lumière, et donc il y avait une partie des jeunes qui faisaient les spectateurs, sans avoir vu le spectacle, mais juste en regardant l'affiche du spectacle, on s'est imaginé être sur un bord de scène après un spectacle. Donc c'était assez drôle, donc on s'est projeté dans un spectacle que personne n'avait vu et que tout le monde allait voir le soir. Après, on se pose beaucoup de questions aussi sur les représentations un petit peu autour du théâtre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le théâtre? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Quels en sont les métiers? Est-ce que le théâtre, c'est Molière ou c'est en effet ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, du théâtre alimentaire? C'est-à-dire, avec de la farine et de l'eau, on arrive à raconter des histoires. À partir du moment où le groupe se connaît de mieux en mieux, il y a une complicité qui se crée. Et en effet, là, la parole se lâche. On ose faire, on ose dire et puis on apprécie aussi être ensemble, et c'est ça aussi le but de l'aventure, c'est qu'on se rencontre. L'objectif premier, c'est permettre en effet de casser un petit peu les représentations d'un lieu qui encore a cette image de lieu un petit peu peut-être réservé à certains, un petit peu intellectuel entre guillemets. Donc on voulait casser ça, on voulait faire que des jeunes se rencontrent, et on sait pas hein, si c'est réussi tout ça. Parfois ça fonctionne, là par exemple les jeunes qui étaient là lundi ils ne sont plus là, ça questionne aussi. Nous aussi en tant que médiateurs au Théâtre de Laval, on avait envie que cette aventure elle nous on sache pas vraiment où on va. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de se dire, bon, on a en effet des objectifs. Est-ce qu'on va les atteindre? Est-ce qu'on va pas les atteindre? On ne sait pas, mais c'est aux jeunes aussi de nous porter dans leur aventure. Et puis, c'est un projet quand même sur 3 ans. Donc là, c'est la première année. On est à mi-parcours de la première année. C'est quelque chose qui évolue petit à petit et qu'on essaye de construire ensemble avec les jeunes, avec les animateurs du service jeunesse. Et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre des uns des autres.
Et d'ailleurs, pendant tout ce programme, un auteur a également suivi les jeunes dans ce projet et un récit de leurs aventures avec leur contribution à eux sera établi à la fin de l'année. On jette un petit coup d'œil à l'agenda de ce week-end et des prochains jours, avec notamment une soirée cabaret proposée demain à Goron par les amis d'Alphonse pour le festival de cet été, justement pour, j'imagine, participer aussi au financement de ce festival. On va aussi retrouver une conférence introductive au Festival des Reflets du Cinéma de la Mer Noire. Là, ce sera à Changé demain après-midi à 17h avec Joël Chaperon, spécialiste des cinématographies de l'ex-URSS, donc en lien avec le thème de cette année, avec, on le sait, cette idéologie qui a inspiré le cinéma soviétique pendant plusieurs décennies, mais avec aussi cette part artistique laissée à chacun des réalisateurs. Ça, c'est gratuit et ce sera suivi à 20h, toujours au même endroit, des Reflets du cours, avec là un ensemble de courts-métrages à retrouver. Là, l'entrée est à 4€. Et puis, demain, vous pourrez aussi profiter de cette nouvelle exposition temporaire au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, une exposition autour de Robert Tatin, l'exotique. Le musée reste ouvert tout le week-end, entre autres, pour retrouver cette exposition. Et puis, si on avance un petit peu plus loin dans la semaine, mardi 1er mars, eh bien, vous pourrez retrouver à 20h30 au cinéma Le Palace, on en a déjà parlé il y a quelques jours, ce film, ce documentaire « Résistante, tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans » dans le cadre d'un programme autour des 60 ans de fin de la guerre d'Algérie, en présence de la réalisatrice Fatima Sissani, qui est donc allée à la rencontre de femmes qui se sont engagées auprès du FLN pendant cette guerre d'Algérie. Et puis, le 1er mars aussi, à Château-Gontier, un concert au Cœur des Halles proposé par les élèves du conservatoire avec un piano-voix. Là, ce sera à 18h30 dans le centre-ville et c'est gratuit. Évidemment, c'est non exhaustif, cet agenda. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui et pour cette semaine. Mais restez avec nous puisqu'à 20h, il y aura Passe-moi le thème. Et c'est la troisième partie de l'émission consacrée aux enregistrements live diffusés pour la BBC, la radio nationale anglaise. Et puis ce week-end, demain, samedi, à 11h, retrouver L'Enfant a des droits, à 13h Rock Dreams et à 17h Bud Station. Et puis dimanche à 11h, ce sera le moment de sport épique et à 21h, l'ennui et au lit. Nous, on se retrouve lundi à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.